Bonjour chers auditeurices et bienvenue en discussion, une série d'entretiens menés avec les collectifs et les ateliers partagés de la ville de Marseille. Ces discussions sont l'occasion de s'intéresser à leurs pratiques et leurs questionnements qui ensemble participent à repenser les modèles. Rencontre aujourd'hui avec les membres du collectif CRO.
Le collectif CRO s'est monté en 2020 parce que Marie et moi, on a fait les Beaux-Arts de Marseille. Et avec Sarah Netter, qui n'est pas présente aujourd'hui, et Paul. Alors, Sarah a aussi terminé ses études en même temps que nous, donc en 2020. Paul, ça faisait 2 ans qu'il avait fini ses études, donc Sarah et Paul sont de la Villarson. En fait, on s'est retrouvés tous les quatre à vouloir monter un atelier, un collectif ensemble. Et Bureaupolis est né à peu près en même temps, en décembre. Et à ce moment-là, on est rentré en discussion donc, avec d'autres amis et proches à nous pour lancer en fait, ce projet-là, de monter une association et un atelier, enfin un collectif, en même temps que Bureaupolis, pour justement en fait, rentrer aussi à l'intérieur de ce projet-là. Donc il est né de ça. Donc à ce moment-là, Casio aussi, qui était dans notre promo à Marie et moi, rejoint le projet. Émile, à l'époque aussi, était aux Beaux-Arts, donc un ami aussi. Et Ayang, qui était aussi dans la promo de Sarah. Donc en fait, on a fusionné là-dessus pour ce projet-là. Et Anastasia nous a rejoint cette année.
Et Gaëtan, qui avait travaillé aussi.
Oui, Gaëtan aussi, qui était aussi un ancien copain de l'école. En fait, on a tous invité une personne supplémentaire à joindre. Et on a fini à 8, après 9, enfin, ça a un peu bougé par la suite.
Ça, c'est un peu comment on s'est rencontrés, et la genèse du projet, c'était aussi de... Voilà, comme on était tous et toutes plus ou moins sortis d'école, enfin, en tout cas dans les 3 années passées maximum, on avait envie de mutualiser plein de choses, que ce soit des besoins matériels, mais aussi un certain dynamisme qu'on a tous et toutes connu à l'école. De regards croisés, de partage d'espace, de pouvoir se parler de nos pièces, des fois de pouvoir travailler ensemble éventuellement. Après ça, c'était plutôt vraiment ouais, l'idée à la base d'un atelier partagé, de pouvoir se concerter autour de ça, sans forcément produire ensemble, en tout cas au début, mais de créer une dynamique de groupe dans un premier temps. En tout cas.
Et une safe place aussi, vu qu'on est tous des amis, qu'on a aussi des liens quand même affectifs les uns avec les autres, c'était aussi un lieu dans lequel on voulait que ça puisse, qu'il y ait une très bonne entente, qu'on puisse se dire les choses aussi de manière très franche, de pouvoir vraiment partager une vie collective au sein d'un atelier, bah, juste un partage d'espace avec des personnes qu'on connaît pas forcément. C'est important aussi le lien de respect, de confiance qui s'est créé, qui s'était créé avant et qui s'est créé après pour ceux qui ne se connaissaient pas au premier abord, vu qu'on était de 2 écoles différentes, Villarson et Beaux-Arts de Marseille.
Je rebondis sur du coup cette idée de safe place. Ça nourrit le projet depuis le début, ou est-ce que c'est aussi né d'expériences en fait que vous avez eues avant, justement peut-être de non safe space, et que du coup il y a eu cette volonté de l'instaurer, d'où ça vient en fait cette nécessité un peu comme de safe place?
Bah, c'est venu dès le départ, je pense, mais ça s'est raffirmé quand on était tous ensemble, et notamment dans des décisions qu'on a prises d'inclure des gens ou non. Et des fois, on a pris des décisions de, même si quelques personnes devaient payer un peu plus le loyer, de rester ensemble et de favoriser cette dynamique qu'on aimait bien.
Oui, puis je pense que c'est aussi pas forcément d'expériences franches passées, de violence ou quoi que ce soit, mais ouais, d'un endroit dans lequel on se sent aussi comme à la maison. Donc même si on n'avait pas tous vécu des choses, je pense qu'il y en a qui l'ont sûrement vécu, mais que c'était pas quelque chose... que c'était plus l'envie de se retrouver dans un endroit calme et respectueux. Donc, c'était la première condition aussi. Mmh. Et c'est pour ça qu'on a choisi des amis avant tout.
Ça, je pense que c'était pas forcément une question qu'on s'est posée, en fait, vraiment en ces termes, mais c'est plus arrivé comme une évidence. Parce que c'est des problématiques qui nous touchent tous et toutes. Et je pense que ce soit dans le fait de d'avoir expérimenté des discriminations, des violences, chacun et chacune, ou d'en avoir été même simplement témoin, c'est des choses donc, voilà, qui nous parlent, et on avait envie que cet atelier partagé, ce collectif, il nous représente et il nous corresponde aussi dans ces termes-là, quoi.
Je passe à la prochaine question, du coup, sur le nom du collectif. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? D'où ça vient?
Est-ce que tu veux commencer, Paul?
Non, pas vraiment. Non, c'était un moment où je pense aussi, il y avait, comme Marie et Manon l'ont évoqué plus tôt, un moment où il fallait forger l'identité d'un groupe et donc trouver des noms pour se définir en tant que groupe. Donc il y a eu plusieurs essais, c'est allé assez rapidement, et en fait, à terme de discussion, je pense pas qu'il y avait forcément de grandes réflexions derrière. C'est parti de jeux de mots, beaucoup de jeux de mots qui sur le même mot croc, et d'avoir aussi des crocs, d'être un petit collectif de jeunes artistes émergents, pour la plupart émergentes, et du coup trouver aussi un moment où on peut faire une blague là-dessus. Mais
ouais, on n'avait pas envie de trop conceptualiser, en fait. Pour nous, c'était un peu rébarbatif, et puis il y avait aussi cette urgence de monter l'association. Donc la première question qu'on nous demande quand on monte une association, c'est le nom de l'association. Et oui, c'est vraiment parti de jeux de mots, de se projeter sur le fait qu'on puisse faire des soirées cro-nambour ou cro-blanc. Et très vite, en fait, c'est parti de ce type de blague. On s'est dit, bon, bah, si, c'est bon si on en rigole tous. Puis il y avait aussi un peu ce jeu sur le début qui nous fait encore marrer, où les gens nous disent, bon, alors Crocs, et on est là, ouais, Crocs, parce qu'on est jeune et qu'on porte des Crocs, mais non, pas du tout, en fait. C'était aussi le fait d'utiliser un mot français, et du coup, c'est drôle que les gens le voient comme si on récupérait une marque, alors que non, c'est juste un mot français.
C'est surtout que moi, dans les discussions autour du nom dont je me souviens, on a vraiment... Enfin, vous, je sais pas, mais moi, je me souviens pas avoir fait le parallèle avec Crocs, quoi. Ouais, j'y ai même pas pensé un seul instant, donc on s'est tout fait surprendre par l'interprétation des gens, en fait, en voyant le mot écrit et pas en l'entendant forcément d'abord. Ouais. Et donc voilà, on s'est fait rebaptiser Crocs par un bon nombre de personnes à Marseille. Donc on a monté une association avec Crocs, et ça s'est posé assez vite comme question, parce que justement on a donc monté un dossier pour avoir un espace à Biopolis, et que c'était nécessaire pour avoir cet espace-là d'abord dans un premier temps. Donc c'est aussi par rapport à des questions très pragmatiques de mutualiser un compte pour payer un loyer pour un espace, etc. Et après, bien sûr, on savait que c'était aussi nécessaire par rapport à... plus tard, des subventions, même s'il fallait, c'était pas pour tout de suite, il fallait un peu d'ancienneté, etc. Mais on s'est dit que dans tous les cas, c'était un statut qui nous correspondait, et par rapport à nos envies pour l'avenir, qui c'était bien qu'on le fasse dès le début de l'existence de ce collectif.
Après, par rapport à l'économie dans l'association CRO, je pense qu'on a tous eu cette responsabilité où on avait une part de loyer via Biopolis à payer, et donc cette part de loyer, on se laissait parer de manière équitable en fonction pas forcément du mètre carré, mais vraiment au niveau du nombre de personnes par rapport à l'espace. Donc ça, c'est tout le temps resté comme ça. On sait qu'on a des responsabilités, chaque mois c'est un peu le nerf de la guerre, il faut payer un loyer, donc chacun trouve et chacune trouve sa manière de répondre à ces choses-là qui sont assez élémentaires. Après, dans le cadre de soirées et ainsi de suite, c'était un peu particulier puisqu'on est un espace, enfin on était un atelier qui était intégré dans l'espace de Biopolis. Donc nous, on a eu l'occasion de faire une après-midi soirée où c'était plus par rapport à, je pense, faire rentrer au sein du collectif pas forcément qu'un aspect plasticien, mais qu'on pouvait aussi faire entrer de la musique et quelque chose qui serait aussi ouvert à un autre public. Donc faire connaître aussi des amis qui sont pas forcément de ce milieu-là, ou faire juste marcher les connaissances et faire croquer un peu, parce qu'il y avait des subventions qui était faible, mais qui était offerte par Bureau Police pour faire amener des personnes extérieures. Mais tout ce qui était bar et ainsi de suite était géré par Bureau Police, donc c'était pas vraiment une source de financement. Et puis le lieu aussi prêtait peu à vraiment organiser des gros événements dus au voisinage et au fait qu'il y a beaucoup d'artistes en même temps. Donc pour avoir des slots disponibles, c'est pas forcément le plus simple.
Ouais, après, je pense que dans un futur, c'est quelque chose qui pourrait... qui nous intéresse, que ce soit même sans parler de soirée, ou même si on sait que... Enfin, c'est souvent ces temps-là qui sont le plus prisés aussi par le jeune public, en tout cas les gens de notre catégorie. Mais c'est vrai que là, le lieu n'y prêtait pas... En tout cas, dans notre atelier, ce n'était pas possible. Au sein du Bureau Police, ça pouvait être un petit peu plus compliqué d'organisation. Puis il y a eu le Covid aussi qui s'est installé là. Donc on n'a pas vraiment pu l'expérimenter. Ça n'a pas été quelque chose qui a fait vivre. Là, sur nos 1 an et demi, 2 ans d'ancienneté, notre association, on n'a pas du tout rentré d'argent extérieur. Après, c'est des questions qu'on se pose et qui forcément pour d'autres ateliers, comme beaucoup d'ateliers, c'est ça qui je pense les fait vivre. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment expérimenté non plus.
Oui, j'ai l'impression que c'est en discussion en ce moment pour un futur lieu.
Ouais.
Mais que tous les membres du collectif n'ont pas forcément envie d'investir du temps pour organiser une soirée. Ça demande beaucoup d'énergie de recevoir du monde, de tenir la soirée. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques membres du collectif qui n'ont pas cette énergie à donner et qui ont besoin d'un atelier pour travailler uniquement.
Ouais.
Donc ça,
pour le moment, ça reviendra, je pense, en discussion une fois qu'on sera fixé dans un lieu. Mais c'est vrai que pour le moment, ça reste pas notre priorité. Pour nos productions plastiques, on a tous et toutes un travail à côté qui est très énergivore pour la plupart d'entre nous et qui a été aussi, je pense, assez problématique sur la fin de Bureau Poly, justement parce que ça nous prenait énormément de temps à côté de notre travail plastique. Mais c'est la seule ressource à laquelle on a. Parce que monter aussi des dossiers de subvention, déjà, on n'avait pas assez d'ancienneté pour pouvoir y prétendre. Et que c'est des gros dossiers de subvention, ça demande aussi d'ouvrir à pas simplement des dossiers de subvention de pratique et de production, mais à ouvrir sur des territoires, sur des populations, et choses que aussi, on n'est pas toutes et toutes, tous et toutes prêts à s'engager, en fait. Et puis, il faut un lieu, donc là, c'est encore moins possible pour nous. Donc toute notre économie de production est faite par nous-mêmes, par le travail qu'on a à côté, qui nous permet de vivre.
Par rapport à la pratique, je pense qu'il y a déjà des ponts, vu qu'on, comme on l'a dit, on se connaissait pour certaines depuis l'école. Il y a des ponts entre certaines pratiques de certaines personnes qui avaient déjà pu se faire. Après, on a vraiment à la base des pratiques plutôt individuelles, mais l'idée de former un collectif, c'était aussi de laisser la porte ouverte à pouvoir mutualiser ou faire se rencontrer à un certain endroit ces pratiques potentiellement dans le futur de l'existence de ce collectif. Après, on parlait de l'aspect financier juste avant. Je pense que là, à Bureau Police, on a finalement moins eu l'occasion de le faire que ce qu'on pensait. Parce que, donc, on avait tous et toutes ces jobs alimentaires à côté aussi qui ont été un peu plus chronophages que ce qu'on avait pu anticiper, je pense. Après, on a quand même fait un projet tous et toutes ensemble à Bureau Police. On a monté une exposition qui est restée un mois là-bas. Pour laquelle on a produit tous et toutes individuellement, mais où il y a quand même eu de la discussion et de la cohésion, pas en amont de la production, mais ensuite pour trouver des ponts. Et c'est vrai que même sans que ça se fasse en amont, il y a des sujets ou des caractéristiques plastiques qui font qu'il y a des ponts qui se font entre nos différentes pratiques.
Oui, l'aspect collectif, il est aussi au-delà de créer ensemble des pièces, parce que par exemple, Ayang et Sarah ont aussi de leur côté un collectif ensemble, mais c'était vraiment de pouvoir faire le commissariat aussi, donc l'écriture du texte, toute la mise en place et la scénographie sur place, Et c'est un petit peu aussi ce qui va se passer là pour Murmuration. Mais c'est vrai que c'est ça qui était le plus important pour nous. Et puis, je pense que ça va amener de plus en plus à ce qu'on crée ensemble, sans forcément avoir à se mettre les uns avec les autres, mais vraiment rentrer dans une production plastique ensemble. Mais il n'y a pas... On n'est pas le collectif de... Enfin, au sens de... On crée tout ensemble. Enfin, la pièce est créée par chaque main du collectif. C'est quelque chose de plus vague et peut-être sans cette frontière-là.
Ouais, par exemple, je pense là, pour Murmuration, on a eu l'envie de se confronter un peu plus à cette question-là et de se poser la question, justement, de dire est-ce qu'on ne ferait pas davantage ensemble, là, plastiquement, une ou plusieurs pièces communes. Ça a... Finalement, la solution qu'on a trouvée, c'était pas forcément de créer de A à Z ensemble, mais de laisser un peu plus de porosité éventuellement entre les pièces. Et là, c'est ce qu'on va faire aussi pendant le montage. On a chacune des pièces qu'on a faites de notre côté individuellement, mais on a envie aussi que dans l'installation, dans l'espace, il y ait des choses qui puissent communiquer entre elles. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on va faire en collectif.
Oui, le collectif, il n'a pas nécessairement besoin aussi de présenter toutes les personnes qui en font partie, comme par exemple là, Gaëtan et Sarah, qui ont choisi de ne pas participer à Murmuration pour des raisons de subvention, en fait, en termes de combien ont été payés les collectifs pour ce travail-là. Et qui en fait étaient des choix, et même s'ils respectent et sont totalement derrière nous aussi pour ce projet-là, elles ont décidé aussi par choix, je pense, politique ou éthique, de se retirer en fait de ce projet. Donc on reste quand même sous le nom de notre collectif, et ça pose pas de problème en ce sens-là, mais c'est important que leur voix aussi puisse s'exprimer. Et comment aussi les faire exprimer dans ce moment-là.
À travers leur absence.
Ouais, à travers leur absence, en fait. Donc,
Bah, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est tous et toutes posées, du coup, au moment d'accepter ou non ce projet. Et bah, bon, je pense qu'on peut dire qu'on est tous et toutes d'accord aussi sur le fait que c'était un souci qu'il n'y ait pas de participation financière ni de commissariat... dès le début du projet. Finalement, il se trouve qu'il y a eu quand même une partie qui a été payée au collectif, mais voilà, nous on a choisi de participer aussi, mais c'est pas un problème qu'on occulte non plus, parce que c'est vrai que la situation de jeune artiste aujourd'hui, elle est compliquée, on doit pas être les seuls à le dire, et comme on a pu le dire avant, on fonctionne tous et toutes avec des jobs à côté et qui nous prennent beaucoup de temps et d'énergie. Donc c'est vrai que là, d'avoir la chance de participer à un événement comme ça, c'est super, mais c'est déplorable qu'on puisse pas être considéré vraiment à hauteur de l'implication que ça demande aussi, quoi.
Et pour rebondir, ça crée aussi plein de questions qui vont résonner sur l'avenir d'un collectif en tant que tel, parce que on est tous amis maintenant et on a l'envie, on a eu des discussions à la fin de Bureaupolis de mais comment va continuer et perdurer en fait un groupe d'amis qui ont un atelier et qui veulent continuer à créer ensemble, mais avec des loyers exorbitants ou pour très peu de lumière ou très peu de place au sein de Marseille, et c'est très compliqué de se dire que les moments où on a des opportunités pour être vu ou pour commencer à créer aussi ce qu'on appelle des connexions, un avenir et ainsi de suite, des moments où au final on n'en tire quasiment rien de sources financières, donc ça crée aussi des vraies questions sur comment un collectif perdure sans subvention, sans argent, quoi.
On paye pour être artiste. Et c'est toute la complexité de la chose, et ce qui rend des fois un peu schizophrène, et qui à la fois dans le... Ouais, ou même nous, ça nous pose des réels problèmes éthiques, et où le choix, là, pour Murmuration, a été très très compliqué, où on passe du je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe, et en même temps, c'est une opportunité à laquelle j'ai envie de participer. Mais c'est compliqué de faire des choix, et aussi quand on passe notre temps à nous répéter en école d'art notre investissement politique et comment on doit aussi s'affirmer politiquement bah là, ça fait un peu mal aussi, je pense. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, pour mon amour propre, à un certain moment, d'aller un peu à l'encontre à des choses sur lesquelles je pensais être très figée. Et en fait, ben, la réalité du métier fait qu'on s'adapte et des fois, ça fait un petit peu mal.
Je pense que c'est juste important, voilà, de dire que même si on a accepté d'en parler quand même de ces choses-là, parce qu'il y a plein de choses à faire et un bon coup de pied à donner dans la fourmilière, je pense. Et donc voilà, nous, on est au clair avec nous-mêmes sur le fait d'avoir accepté, mais c'est chouette d'avoir aussi cet espace-là pour aborder ce genre de sujet.
Dans le futur, déjà, on envisage d'avoir un atelier à nouveau. Ça serait déjà un gros point. Et en fonction de lieu, peut-être qu'on accueillera de nouvelles personnes.
Et on aimerait quand même faire perdurer cette safe space dont on parlait avant. Et c'est peut-être aussi s'associer avec d'autres collectifs, mais on peut jamais savoir avant comment ça va se passer avec le collectif, donc c'est un peu des expérimentations qu'on va pouvoir faire socialement et au niveau de l'espace qu'on pourra créer avec d'autres personnes. Mais on est quand même ouvert à cette ouverture.
Mmh. Et en fonction du lieu, je sais que Paul et Manon sont plus chauds pour organiser des soirées, il me semble. Peut-être enfin, continuer à faire des expos ensemble.
Mmh. Oui, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Après, c'est toujours la problématique du lieu. Donc,
ouais, je pense que là, on a plein d'envies pour que ça continue, ce qui a déjà bien commencé. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a ce projet Pyropolis qui a fini en juin. Là, on est en train de chercher un lieu. On a peut-être des pistes, mais ça aussi, c'est un côté qui est un peu éreintant, qui est compliqué à Marseille. Mais voilà, après on a aussi un collectif qui est un peu mouvant dans une certaine mesure. Il y a des personnes qui faisaient partie de la création qui sont détachées du collectif pour différentes raisons, souvent pour répondre à d'autres opportunités. Donc on disait tout à l'heure qu'Anastasia nous avait rejoint cette année, et c'est quelque chose qui est important aussi pour nous quand ça se présente. Je pense la Pyropolis, c'était compliqué de le mettre en place parce que c'était un temps très court et que c'est difficile d'accueillir de nouvelles personnes quand la durée totale du projet c'est 1 an et demi et qu'on a commencé à mettre en place une certaine dynamique. Mais pour la suite, c'est pas du tout une question à laquelle on est fermé. Et comme disait Casio, partager des problématiques communes et un dynamisme avec d'autres personnes et éventuellement d'autres collectifs, c'est quelque chose qui nous attire aussi, je pense.
On a vu que même au sein du collectif, ça pouvait faire bouger des choses, il y avait des liens qui se créaient, donc je pense que plus on sera, plus ça fera des liens. On pourra faire de belles choses.
Ouais.
Faire de belles choses, c'était un bon mot de la
fin. Ouais, j'aurais bien rajouté
de l'huile dessus.
Dans l'argent, vous allez
pouvoir. Je crois qu'on a fait le tour.
Ok. Bon, bah, merci, merci à vous cinq. Et,
merci, voilà. Merci à toi.
Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Cet entretien, comme tous les autres à suivre, a été mené dans le cadre de Murmuration Volet 2, une exposition produite par Frame à la Friche Label de Mai, à Marseille. Cet épisode a été réalisé par Cyril Bergougnou, avec l'aide et le soutien de toute l'équipe de Frame. Un grand merci au collectif et aux ateliers partagés de s'être prêtés au jeu et d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver et réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur notre site internet frame.art. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles discussions.